Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de Ev Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucy l'Australopithèque à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction. L'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Cocovore, adepte d'un mouvement historique plaçant la noix de coco au centre de l'existant, parfois aussi cocovorien, cocophile ou plus rarement cocodule.
Cocotier. Parmi les espèces végétales, le cocotier, ou Cocos nucifera, est une plante de la famille des arécacées, palmiers, dattiers, rotins, etc. Cousin de l'orchidée ou du bananier, il n'est pas un arbre, même s'il en a nombre d'attributs visibles. Ce qui semble être un tronc avec un bourrelet à sa base est une longue et grosse tige rigide et ses racines sont fines et peu profondes. Elle peut atteindre plus d'une dizaine de mètres. Toutes ses feuilles émanent d'un unique bourgeon et son fruit qui se développe en régime est communément appelé noix de coco. Le Cocos nucifera est l'unique plante à produire de tels fruits. La plante dispose d'une autonomie reproductive par la fabrication de fleurs mâles et de fleurs femelles sur des périodes qui se chevauchent. Les premiers fruits apparaissent après 2 ou 6 ans selon que le cocotier soit de type nain ou pas. La plante peut vivre plusieurs dizaines d'années avant de dépérir pour mourir progressivement.
Tout comme la poussière un moment soulevée par le vent qui vient et qui va sur le chemin, le souffle creux de cette vie dresse des riens. De rien, nous, puis s'arrête et les redonne au rien. Fernando Pessoa, Rubaiyat, cité à l'entrée à la manière de, dans Analecte de rien.
L'origine géographique du Cocos nucifera n'est pas déterminée avec précision. La zone première semble être les vastes étendues tropicales situées entre le sous-continent à l'ouest des Andaman et Nicobar, l'Inde, et le sud des îles Spratleys. Les fruits tombés au sol se déplacent en fonction de la topographie, au fil des intempéries qui les mènent parfois très loin. Leur coque contient de la chair, un liquide et un embryon reproductif qu'elle protège. Dès que le fruit s'est stabilisé à un endroit, il s'implante. Les pluies, les rivières et les mers sont des vecteurs importants de l'expansion du cocotier. Sa diffusion se fait au hasard et il est probable que d'une zone première, le cocotier se soit répandu naturellement sur les nombreuses îles entre les océans Pacifique et Indien. Les datations des vestiges archéologiques de cocotiers laissent à penser qu'entre 2500 avant J.C. et le 9e siècle, les cocotiers s'implantent sur toutes les terres au climat tropical, ont essaimé de la côte chinoise jusqu'au Darien panaméen. Le cocotier se répand aussi vers l'ouest, pour atteindre les côtes de l'Afrique orientale vers le 10e siècle. Jusqu'alors épargnées par le cocotier, les régions tropicales des côtes est de l'Amérique du Sud et ouest de l'Afrique voient les premières noix de coco arriver au 16e siècle, parmi le fatras théologique, viral et militaire qu'apportent les colonisateurs ibériens, portugais ou espagnol.
Les hominines sont aussi de bons diffuseurs de cocotiers qui le sèment là où les quatre éléments ne sont pas parvenus à le faire. Lors de leur lente migration vers les îles de l'océan Pacifique, les hominines amènent des noix de coco afin d'en implanter où ils se fixeront. La culture du cocotier par les hominines est attestée en Inde dès le VIe siècle et en Chine trois siècles plus tard. Le mélange entre les cocotiers natifs et ceux importés, puis sélectionnés par les hominines, est probablement à l'origine de la diversité actuelle de cocotiers de par le monde. Les cocoteraies utilisent généralement des variétés sélectionnées pour leurs fruits plus gros et une germination plus rapide. Le XXe siècle sera celui des expérimentations et des hybridations. Ces variétés modifiées à partir d'une variété naine sont plus productives mais aussi plus fragiles. Elles sont, de fait, plus exposées à leurs prédateurs qui raffolent, chacun à leur manière, sans repaître. Du charançon du cocotier aux termites, des renards volants aux acariens. Actuellement, le cocotier est exploité dans 95 pays dans le monde qui exportent 59 millions de tonnes de noix de coco par an. Les trois principaux producteurs sont, par ordre décroissant, l'Indonésie, les Philippines et l'Inde, qui représentent à elles seules plus de 75% de ce commerce.
Regardez ce que j'ai, une boisson noix de coco, et depuis tout à l'heure j'essaye de l'ouvrir mais j'y arrive pas. Quand je la secoue, il n'y a pas de bruit, donc je me dis est-ce qu'il y a vraiment du jus dedans? Je comprends pas, tout le monde dit qu'il faut taper là pour l'ouvrir depuis tout à l'heure. Vraiment je vous promets que je tape de toutes mes forces mais ça ne s'ouvre pas. Donc à un moment j'en ai marre. Mais non, mais j'aurais dû le voir avant. En fait il faut retourner la noix de coco et la taper comme ça sur la table. Du coup c'est ce qu'on va faire. Mais ouh, ça a sauté. J'ai réussi, il faut que j'enlève la petite étiquette là comme ça. Voilà.
Pour les hominines, le cocotier est une plante à usage multiple depuis des siècles.
C'est hyper bon.
Les hominines ne sont pas la seule espèce du vivant à utiliser la noix de coco. La pieuvre coco, qui se déplace avec une noix ouverte, s'en sert d'outil de chasse, de bouclier ou de refuge. Chez les hominines, son fruit comestible est prisé pour sa chair contenue dans la coque, qui peut être consommée fraîche ou séchée, et de laquelle on obtient du lait en la pressant. Avant maturité, le fruit contient un liquide comestible et sucré, l'eau de coco. Par des procédés de séchage ou de raffinage, la chair est aussi utilisée pour fabriquer des huiles comestibles pour les hominines, du carburant végétal, des produits cosmétiques type savon ou pommade, ou des remèdes médicinaux. La coque permet de créer de multiples récipients pour stocker des aliments par exemple. Les fibres qui entourent la noix de coco sont résistantes et entrent dans la fabrication de plusieurs objets tels des cordages ou des brosses. Sans que cela ait été jamais confirmé, l'existence d'une perle de coco est mentionnée dans des textes qui parlent d'une perle qui se constitue au sein même du fruit lors de sa croissance. Elle est si rare que nul n'en a vu autre part que sur des photographies que beaucoup considèrent comme fausses.
Rien ne peut servir à tout, mais tout peut très bien servir à rien. Pierre Dac, cité à l'entrée Schmilblick dans Un Analecte de Rien.
Difficile de répertorier ici tous les usages du cocotier par les hominines, tant ils sont nombreux et variés dans les régions où il est présent. Si la quasi-totalité des aspects culinaires de la noix de coco sont partagés par l'ensemble des hominines, il n'en est pas de même pour l'utilisation de produits dérivés du reste de la plante. Là où la coque est coupée en deux pour faire un protège-sein pour les hominines femelles, on ne porte pas nécessairement les feuilles en guise de pagne. Là où la tige du cocotier est utilisée pour sa solidité, on ne se sert pas nécessairement des fibres, etc. Malgré ces recherches, qui continuent, la protivophilie n'a pas pu trouver de trace pour l'instant d'une utilisation de la noix de coco, peut-être percée de trois trous pour y glisser les doigts, pour un jeu consistant à renverser des objets alignés. S'il s'avérait que cette intuition soit démontrée par la suite, par l'archéologie ou l'homininologie, ceci ferait des jeux de quilles et du bowling des formes de réappropriation culturelle. Des colons allemands et néerlandais introduisent au XVIIe siècle sur le continent nord-américain un jeu de quilles traditionnellement pratiqué dans le nord de l'Europe. L'utilisation de 9 quilles, d'une boule et d'une piste couverte devient la norme au XIXe siècle. Avec l'ajout d'une 10e quille, le bowling moderne est né. Il se répand dans le monde à partir de la Seconde Guerre mondiale, grâce aux bases militaires états-uniennes. En parallèle, d'autres jeux de quilles existants, les premiers bowling en France voient le jour dans les années 1950. D'une manière générale, ce phénomène de réappropriation culturelle est l'emploi par des cultures dominantes d'objets, de symboles, de vêtements, de musique, de gastronomie, d'idées, de discours et de sports provenant de cultures dominées. L'utilisation hors contexte est alors jugée potentiellement offensante, voire raciste. D'autant plus lorsque cela renforce la position dominante.
ouais.
C'est le move de la noix de coco.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais, noix de coco. Et ça fait, c'est le move de la noix de coco. C'est le move de la noix de coco. Aujourd'hui, comme tous les jours,
ouais, ouais, ouais.
C'est le move de la noix de coco. C'est le move de la noix de coco. Aujourd'hui, comme tous les jours.
Coco Vaurien.
Hormis les énormes crabes des cocotiers qui raffolent de la chair des noix qu'ils brisent avec leurs pinces ou les différents ravageurs qui se repaissent de la plante, les cocovoriens sont une forme hybride de cocotiers et d'hominines. Ils sont mâles ou femelles. Pour ces hominines, la noix de coco est un élément central de leur existence, tout comme les respiratoriens et les solariens qui prônent, respectivement, la consommation d'air pour seul aliment et une alimentation basée sur les rayonnements solaires. Les cocovoriens vouent un culte particulier aux cocotiers et à la noix de coco. Pour autant, ils ne peuvent être réduits à une sorte de Macédoine de rastafariens et de naturiens. Pour elle, le cocotier est l'unique plante qui permette à des hominines de s'en contenter pour vivre et être en bonne santé. Véritable défi à la biologie des hominines, les cocovoriens répondent à leurs détracteurs par un argumentaire classique de type macquérien.
Un disciple vint un jour trouver Macaire l'Ancien. « Macaire, que dois-je faire pour sauver mon âme ?»« Va au cimetière, dit Macaire, et insulte les morts. » Le disciple va au cimetière, insulte les morts, revient trouver Macaire. « Qu'ont dit les morts ?» demande Macaire. « Rien, répond le disciple. « Retourne au cimetière et va bénir les morts, dit Macaire. » Le disciple retourne au cimetière, bénit les morts, revient trouver Macaire. « Qu'ont dit les morts ?» demande Macaire. « Rien, répond le disciple. « Sois comme les morts, dit Macaire. « Ne juge personne et apprends à te taire. » Sérapion, vicopte de Macaire l'Ancien, cité à l'entrée Réponse à tout dans Analecte de Rien.
Lister l'ensemble des communautés de cocovoriens n'est pas chose envisageable car la plupart sont inconnues. Nous ne savons rien de leur existence. Parfois, l'historiographie s'enrichit de la découverte, dans la myriade d'îles entre les océans Indien et Pacifique, de telle ou telle micro-communauté dont on ignorait l'existence, souvent dans des régions propices au développement du cocotier. Les spécialistes des cocovoriens se sont donc intéressés aux très rares militaires japonais qui n'ont pas eu connaissance de la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont continué, à quelques-uns ou seuls, à se maintenir dans des zones de forêt et de montagne jusque dans les années 70. Entre 1947 et 1974, 127 soldats japonais qui continuent à tenir leur position sont identifiés dans les îles du Pacifique. Sur l'île volcanique d'Anatahan, au nord de Guam, ce sont une trentaine de marins qui, après la perte de leur bateau, prennent pied sur l'île alors habitée par deux hominines, un mâle et une femelle chargées d'une cocoteraie. Refusant la fin de la guerre, ils se maintiennent sur l'île pendant 4 ans avant d'être finalement évacués. Kazuko Iga, l'unique hominine femelle d'Anatahan, devient pendant cette période la pièce centrale du petit groupe de soldats. Convoitée, elle est la source de querelles entre les mâles, dont 11 meurent mystérieusement. L'histoire d'Anatahan a donné lieu au Japon à un roman, Cage à la mer, en 1998, et des adaptations cinématographiques, Fièvre sur Anatahan, en 1953, et Tokyo Island, en 2010. Face à la pénurie de matériel, la noix de coco est parfois évidée pour être remplie d'acide ou de grenades pour en faire des explosifs artisanaux plus puissants. Mais bien qu'ils consommèrent tous des noix de coco régulièrement, aucun n'a finalement opté pour un strict régime cocovorien pendant ces décennies de survie et de guérilla fantôme.
J'suis sorti mercredi, chasser le trésor sur les mers, mais le vent violent m'a emporté mon plan. Macaire, quel ennui, s'est envolé plus droit de fer. J'en suis resté sans voix, les bras ballants. Tandis que mon plan volait, en douce je me disais, oh noix de coco, oh noix de coco, j'ai encore tout le temps de réessayer. tendre et essayer.
Il coco.
Sous les latitudes qui conviennent à sa germination, le cocotier est présent dans toutes les zones tropicales de la planète. Un sol sablonneux, un peu de salinité et suffisamment d'eau sont les conditions propices. De manière très originale, les hominines ont nommé une dizaine d'îles et d'îlots de l'océan Indien et du Pacifique du nom de la plante ou de son fruit, au prétexte qu'effectivement des cocotiers y étaient présents. Les îles Coco, Cocos ou des cocotiers se divisent en deux groupes. Dans l'un, celle où vivent des hominines, dans l'autre, celle qui n'abrite que des cocovores non hominines. Dans le premier, les îles Coco au Myanmar, au nord d'Andaman et Nicobar, les îles Cocos et l'île Cocotier australienne, l'île Cocos au Costa Rica et celle au Panama, ainsi que deux îles Cocotier à Hawaï. Située dans le Pacifique à plus de 500 km au large du Costa Rica, l'île Cocos, Isla del Coco en espagnol, est d'une superficie d'un peu plus de 20 km². Cartographiée au milieu du XVIe siècle sous le nom d'îles de Coque, elle est ensuite utilisée par de nombreux pirates, qui y trouvent un refuge isolé, boisé et riche en eau douce, et qui, selon les légendes, viennent y cacher leurs trésors. L'île est alors surnommée l'île au trésor. Maintenue à l'écart des activités des hominines, elle est encore parfois explorée par des chercheurs de trésors et des faiseurs de mythes. Dans le second groupe, l'île aux cocos mauriciennes, celle de Guam à l'est des Philippines et celle au nord des Seychelles. Exemptes de toute présence permanente d'hominines, ces trois îles aux cocos sont les seules où les cocovoriens en tout genre peuvent vivre sans risquer d'être en concurrence avec elles. Les cocotiers vivent librement. Aucun hominine pour éradiquer les acariens, les insectes, les oiseaux, les rongeurs ou les crabes qui raffolent aussi du cocotier. Toutes ces espèces qualifiées de ravageuses par les hominines. Pour certains, le cocotier est leur principale source alimentaire. Pour d'autres, il n'est qu'un complément. Pour certains, il est un lieu de reproduction. Pour d'autres, d'habitation. Il est chose convoitée d'une manière ou d'une autre par une centaine d'espèces vivantes, dont l'hominine. Mais seule cette dernière est en mesure de venir à bout des autres. Radicalement, comme il a déjà eu l'occasion de le démontrer avec ses semblables au cours des siècles de son histoire récente.
Fesses, coco, sexe, auto.
Moi j'dis aux fesses, coco, fesses, coco.
J't'ai dit fesses, coco, sexe, auto.
Moi j'dis aux fesses, coco, fesses, coco.
J't'ai dit fesses, coco, sexe, auto.
Moi j'dis aux fesses, coco, fesses, coco.
Des travaux récents semblent indiquer que l'activité des hominines perturbe les équilibres du vivant. Des lieux sont rendus invivables pour toutes les autres espèces et une partie d'entre elles s'éteignent progressivement. L'hominine est un ravageur du cocotier.
Alors quoi ?
Rien.
Blaise Cendrars, Moravagine, cite à l'entrée surréalisme dans Analecte de Rien.
Cabacon.
Dans le courant des années 1860, l'Empire allemand prend pied en Océanie via des compagnies de commerce. Par des échanges avec d'autres colonisateurs ou des achats de terres, l'Empire met en place le protectorat de Nouvelle-Guinée allemande. Ce protectorat est officiellement acté en 1899. Une centaine de personnes seulement sont nécessaires à la bonne marche de ce protectorat. Neu-Jöllenburg, actuelle île du duc d'York, est un petit groupe de 13 îles entre le sud-ouest du nouveau Mecklenburg et le nord-est de la nouvelle Poméranie. Cabacon, au sud, est l'une d'elles. Sa superficie est de 3,6 km².
August Engelhardt, né en 1875 à Nuremberg, dans le sud de l'Empire allemand. Cette époque est celle de l'apparition d'un large mouvement critique de l'industrialisation et de son mode de vie, qui questionne le retour à la nature, réfléchissant de fait sur le nudisme, le végétarisme et la sexualité. En 1898, il coécrit avec August Bethmann « Eine sorgenfreie Zukunft », « Avenir sans souci », dans lequel il décrit un projet de communauté nudiste de frugivores à prédominance cocovore dans le Pacifique. Le livre est réédité deux fois l'année suivante. August Engelhardt rejoint alors la Fontaine de Jeunesse, un centre médical para-institutionnel prônant le végétarisme, la naturopathie et le nudisme, où il tente de propager, sans succès, son point de vue sur la noix de coco. Il participe aussi à la mise en place de la colonie individualiste végétarienne de Monteverita, dans le Tessin helvétique. Située à proximité de la ville d'Ascona, Monteverita est une colline sur laquelle s'installe, à la charnière des 19e et 20e siècles, un groupe de 7 hominines venus d'Allemagne, 4 mâles et 3 femelles, avec pour projet d'y instaurer une communauté de nudistes végétariens. Monteverita se transforme rapidement en un lieu de culture naturopathe, puis en lieu de résidence artistique avant d'être acheté en 1926 et transformé en complexe hôtelier gastronomique.
Suffit-il de se proclamer individualiste ? Non, une religion peut se contenter de l'adhésion verbale et de quelques gestes d'adoration. Une philosophie pratique qui n'est point pratiquée n'est rien. Anne Riner, petit manuel individualiste, cité à l'entrée Travaux pratiques dans Analecte de rien.
En juillet 1902, August Engelhardt embarque sur un bateau, direction la Nouvelle-Guinée allemande. Après 2 mois de voyage, il débarque à la mi-septembre à Herbertshoe. Avec l'argent de son héritage, il achète pour 40 000 marks une concession sur la petite île de Cabacon auprès de la compagnie d'Emma Forsyth et devient ainsi, en octobre, propriétaire d'une plantation de cocotiers et de bananiers de plus de 75 hectares. Né en 1850 d'un père états-unien commerçant au Samoa et d'une mère princesse Samoa, Emma Forsyth parvient à construire un petit empire commercial local entre 1850 et le début du XXe siècle. Elle achète des terres autour de Herbertshoe. Sa compagnie est la plus importante en ce qui concerne l'exportation de la noix de coco venant de Nouvelle-Guinée.
Les singes s'affolent dans la forêt, aussi vite les uns que les autres, et toute la bande crie en même temps. Où est passée la noix? Où est passée la noix? Où est passée la noix de coco? Oh oh! Où est passée la noix? Où est passée la noix? Où est passée la noix de coco?
Une quarantaine d'hominines locaux vivent déjà sur Cabacon et certains fourniront la main-d'œuvre. Il construit une cabane de 3 pièces dans laquelle il range ses 1200 livres, abandonne ses habits et adopte une alimentation frugivore basée sur les fruits locaux. Et évidemment la noix de coco, puis strictement cocovore. En 1903, il est rejoint par August Bethmann. Malade, Engelhardt est convaincu par le nouvel arrivant de se rendre en 1904 à l'hôpital de Herbertshoe, où le médecin constate sa mauvaise santé et sa maigreur, 39 kg pour 1,66 m. Un court séjour hospitalier requinque le cocovorien, qui repart pour Cabacon. August Engelhardt invente une philosophie mystique basé sur le soleil et la noix de coco, et qu'il nomme « Ordre du soleil ». La question de l'immortalité grâce au régime cocovorien n'est pas exclue. Avec l'aide de Bethmann, il publie régulièrement des articles sur la vie et l'expérience de Cabacon dans des journaux en Europe et recense les plantes et leurs usages médicinaux par les hominines locaux pour des revues de botanique. Les articles publiés attirent quelques végétariens prétendant cocovoriens. En mars 1905, arrive Wilhelm Bratke, en octobre Heinrich Conrad, qui ne reste que quelques mois, et en novembre Wilhelm Heine, qui meurt rapidement de la malaria. Anna Schwab arrive à Herbertshoe à la mi-1906. Elle se marie avec August Bethmann et s'installe, elle aussi, à Cabacon. Mais à la mort de son mari de la malaria en septembre, et face à ses désaccords sur l'aspect strictement cocovore de la colonie, elle quitte l'île et retourne en Allemagne, où elle critique publiquement la communauté de Cabacon. L'état de santé d'Engelhardt est alors décrit comme déplorable, malnutri, les jambes blessées avec de nombreuses éruptions cutanées et des infections. En parallèle du retour à la nature, Engelhardt tente de développer le commerce de coco râpé et d'huile de coco à destination de l'Europe. L'exploitation de la cocoterie est confiée à Wilhelm Bratke, puis, après son départ, à d'autres cocovoriens nouvellement arrivés. Mais le commerce n'est pas florissant. Le manque d'argent ne permet plus d'accueillir et de financer l'arrivée et l'installation de nouveaux adeptes, cocotiers solariens, à qui, dorénavant, est demandée une participation financière. Pour attirer de nouveaux adeptes à l'ordre du soleil, le bimensuel Foursonneux Tropen und Kokosnuss, pour le soleil, les tropiques et la noix de coco, est lancé en 1909 par Engelhardt et paraît jusqu'en 1913. Il y préconise la mise en place d'un vaste empire colonial international tropical des frugivores. 1913 est aussi l'année de la publication en anglais de Eine Sorgenfreie Zukunft par le naturopathe Benedikt Lust. Celui-ci prévoit même de s'installer à Cabacon, mais l'éclatement de la Première Guerre mondiale met un terme à son projet. Les colonies allemandes du Pacifique tombent sous le commandement des forces australo-britanniques. Engelhardt est fait prisonnier de guerre en 1915 et incarcéré à Rabaul. Considéré excentrique et non dangereux, il est libéré après 3 semaines et retourne à Cabacon, dont la cocoterie est maintenant gérée par Willem Mirow.
La colonie fut un refuge cocovorien pour une 30aine de personnes au long de son existence, mais les maladies, la malnutrition et l'austérité quotidienne jouent contre elle. Par exemple, Heinrich Huygens et Max Luthofs meurent peu de temps après leur arrivée, l'un de maladie, l'autre lors d'une tempête. August Engelhardt est retrouvé mort sur une plage le 6 mai 1919 et enterré au cimetière de l'île voisine de Myoko. Il ne reste rien de sa tombe, peut-être détruite lors des combats de la Seconde Guerre dite mondiale. Willem Bratke, le dernier cocovorien de Cabacon, décède le 10 mai à l'hôpital de Pitalovo, près de Herbert Schoe. Conformément à la biologie des hominines, l'ordre du soleil n'a pas survécu au régime cocovorien.
Toutes les affaires des hommes ressemblent à leur début, et leur vie n'est pas plus respectable ni plus sérieuse que leur conception. Nés de rien, ils retournent au néant. Bion, d'après Sénèque, de la tranquillité de l'âme, cité à l'entrée vide-grenier dans Analecte de rien.
Anxiété.
Tout est anxiogène.
Île Phénix.
Dans ce qu'elle nomme Extrême-Orient asiatique, la France s'installe progressivement sur le continent, au sud de la Chine, et prend le contrôle militaire, administratif, politique et économique. Elle forme l'Indochine française, administrativement divisée en 5 régions, Cochinchine, Cambodge, Amman, Tonkin et Laos. Tout au long de la colonisation, l'Indochine est secouée par des mouvements de contestation qui tentent d'obtenir l'indépendance. À l'issue de la sanglante guerre d'Indochine, de 1946 à 1954, qui oppose la puissance coloniale et les partisans de l'indépendance, le Cambodge se proclame royaume en 1953 et le Laos en 1954. La Cochinchine, l'Aman et le Tonkin ne parviennent pas à s'unir pour former un Vietnam indépendant. La première devient en 1954 le Vietnam du Sud et les deux autres intègrent le Vietnam du Nord. L'une s'organise politiquement en république alors que la partie Nord est sous la direction d'un parti communiste. Le début d'une longue carrière pour un thème cher au cinéma, à la littérature, aux musiciens, aux paroliers, aux militants et autres chercheurs d'inspiration, la guerre du Vietnam. Le début d'un long calvaire pour les populations dominines, mâles et femelles, qui sont impliquées volontairement ou malgré elles dans ce violent conflit, que résume très bien le correspondant de guerre du quotidien Palindrome, Guy Debord.
Mais rien ne traduisait ce présent sans issue et sans repos, comme l'ancienne phrase qui revient intégralement sur elle-même. Étant construite lettre par lettre comme un labyrinthe dont on ne peut sortir, de sorte qu'elle accorde si parfaitement la forme et le contenu de la perdition. Ingirum imus nocte et consumimur igni. Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu. Guy Debord, Ingirum imus nocte et consumimur igni, cité à l'entrée palindrome dans Analecte de rien.
Après des études de sciences dans une université française à la fin des années 20, Nguyen Thanh Nam fonde en 1963 le royaume Noix de Coco, dans la province de Ben Tre, située dans l'ancienne Cochinchine, maintenant sud-vietnamienne. Dans une Macédoine des mythologies des bouddhaïens et des chrétiens, il s'autoproclame prêtre de sa nouvelle religion de la Noix de Coco. Il porte un crucifix et s'habille comme un moine. Il prétend se nourrir depuis 3 ans exclusivement de méditation et de ce fruit. Alors, en pleine guerre du Vietnam, il s'installe sur l'île Phénix, Con Phung en Viet, sur le fleuve Mekong et y construit une pagode, un lieu de culte dédié à la noix de coco. 40 hectares où les cocotiers vivent en liberté, un paradis de cocos vauriens. Tolérée par les autorités sud-vietnamiennes qui la jugent inoffensive, la religion peut se développer sans aucun souci. Quelques milliers d'hominines, de tout genre, font leur cette nouvelle religion en reconnaissant en Nguyen Thanh Nam le prophète de la concorde. Surpris par son échec aux élections présidentielles de 1971, Sa Majesté Bateau de Coco se persuade de ne plus se consacrer qu'à son culte. Il communique avec ses adeptes uniquement par écrit. Selon ses adeptes, il médite à côté d'un tas de noix de coco, en mange une fois par jour, ne boit que son lait et ne se lave qu'une seule fois par an pour l'anniversaire de Bouddha. Rien d'autre. Sa notoriété lui attire les sympathies d'autres excentriques. Par exemple, le dernier en titre d'une lignée familiale qui s'acharne à nommer systématiquement leurs enfants mâles de manière identique. John Ernst Steinbeck, quatrième du nom, fils de John Ernst Steinbeck III, plus connu sous son nom de plume, John Steinbeck, et auteur d'un roman dont le titre est une évocation poétique évidente des grappes de fruits du cocotier, les raisins de la colère. Un peu comme le choix de F. Merjanov d'intituler « Casse-noix », une entrée de son livre longuement consacrée à rien.
La philosophie n'a rien à dire sur le monde.
Malgré les foudres guerrières du Vietnam du Sud et de son allié états-unien, malgré les nombreux tests menés sur des hominines pour déterminer l'efficacité ou non du napalm pour lutter contre le communisme, les forces du Nord prennent le contrôle de l'ensemble du territoire en 1975 et proclame la République socialiste du Vietnam sur le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine. Moins sensible à l'aspect inoffensif, plus incisif contre l'excentricité, le nouveau pouvoir interdit le culte. L'inspiré de la noix de coco se fait discret. Nguyen Thanh Nam survit jusqu'en 1990 et meurt à l'âge de 81 ans. Même les gourous ont une fin. Celui que la protivophilie surnomme affectueusement « inutilité du coco » confirme ainsi que le régime cocovorien ne mène en rien à l'immortalité de l'hominine qui s'y adonne, contrairement à ce qu'en pensait August Engelhardt l'instant avant sa mort. Dans le cadre d'une étude biologique des hominines, une autopsie aurait sans doute été souhaitable, comme cela se pratique très bien dans le cas d'anthropodes ou de bilatériens au comportement singulier.
Non, Coco, me fais pas ça.
J'ai remarqué que t'étais chelou. T'étais où depuis tout à l'heure? Me fais pas les yeux doux. J'suis ta meuf ou ta sœur. Tu peux pas me quitter. J'suis désolée, Coco. Et la meuf que tu fréquentes, figure-toi que j'la coco. Tu veux me quitter, c'est mort, Coco. J'veux plus tes efforts, Coco. D'ailleurs, j'te réponds plus, Coco. Sur Insta, t'es en vue, Coco. Tu veux me quitter, c'est mort, Coco. J'veux plus tes efforts, Coco. D'ailleurs, j'te réponds plus, Coco. Sur Insta, t'es en vue.
Bougainville.
Vers les 10 heures, le 30 juin 1768, une douzaine de pirogues de différentes grandeurs vinrent assez près des navires sans toutefois vouloir les accoster. Il y avait 22 hommes dans les plus grandes, dans les moyennes 8 ou 10, 2 ou 3 dans les plus petites. Ces pirogues paraissaient bien faites. Elles ont l'avant et l'arrière fort relevés. Ce sont les premières que nous avions vues dans ces mers sans balancier. Ces insulaires sont aussi noirs que les nègres d'Afrique. Ils ont les cheveux crépus mais longs. Quelques-uns de couleur rousse. Ils portent des bracelets et des plaques au front et sur le col. J'ignore de quelle matière, mais elle m'a paru être blanche. Ils sont armés d'arcs et de sagaies. Ils faisaient de grands cris et il parut que leur disposition n'était pas très pacifique. La côte ouverte est presque inabordable. La vague y brise tout. La montagne vient se terminer au bord de la mer et le sol est entièrement couvert de bois. Dans de petites anses, il y a quelques cabanes, mais en petit nombre. Les insulaires habitent dans la montagne. Extrait de Louis-Antoine de Bougainville, Voyage autour du monde.
L'arrivée à la fin du XIXe siècle de l'Empire allemand sur l'archipel des îles Salomon vient concurrencer la présence britannique dans la région. L'archipel est finalement séparé en deux par les colonisateurs, les Britanniques s'attribuant le sud et les Allemands les îles Bouka et Bougainville, ainsi que quelques îlots proches au nord. En 1889, Bouka et Bougainville sont incorporés à la Nouvelle-Guinée allemande. D'une superficie de 10 000 km², Bougainville est la plus grande des deux et la plus peuplée d'hominines. Ce nom exotique qui orne les plaques de rue en France en son honneur, et non celui de l'île, est celui d'un navigateur français qui longe à la fin juin 1768 l'île habitée par des hominines depuis plus de 30 000 ans. Bouka aussi est nommé ainsi par le choix du navigateur. Les populations d'hominines des deux îles partagent les mêmes modes de vie, mais se différencient entre elles par des langues et des origines migratoires séparées. La colonisation allemande s'intéresse aux cocotiers qui pullulent sur Bougainville pour fabriquer du copra, un résidu de la chair de coco séchée au soleil utilisé dans la fabrication d'huile de coco. Des missionnaires chrétiens se chargent de la colonisation des esprits. Au début de la Première Guerre mondiale, la partie allemande de l'archipel des îles Salomon est occupée par les militaires australiens, comme le reste de la colonie de Nouvelle-Guinée, puis administrée par une autorité civile à partir de 1920. Les hominines de Bouka et Bougainville sont alors estimées à environ 50 000 individus, mâles et femelles. Les propriétaires allemands sont expropriés sans dédommagement et l'activité des cocoteraies est maintenue. Les exportations sont maintenant au bénéfice de l'Australie et des Britanniques. Les employés dans les cocoteraies sont des hominines locaux. Le nouveau colonisateur importe la scolarisation, la langue et ses habitudes de vie via les administrateurs, les militaires, les ingénieurs, les ouvriers, les anthropologues et les religieux. Bien malgré elle, les hominines de Bouka et Bougainville se retrouvent impliqués dans la Seconde Guerre dite mondiale. L'occupation de tout l'archipel des îles Salomon par l'armée japonaise, les combats entre cette dernière et les Australo-États-Uniens, la résistance japonaise puis la libération par les Alliés et la mise sous tutelle internationale. Préférant se fonder sur les frontières coloniales plutôt que sur les réalités géographiques des hominines, le redécoupage administratif rattache Bouka et Bougainville à la province australienne de Papouasie et Nouvelle-Guinée plutôt qu'à l'archipel des îles Salomon.
Les lendemains de guerre sont une intensification de l'exploitation des richesses de Bougainville. Le cocotier n'est plus la seule source d'enrichissement depuis la découverte de gigantesques gisements de cuivre et la suspicion d'une présence d'or. Dès 1964, l'entreprise minière Bougainville Copper Limited entreprend des travaux à Panguna, dans le centre de l'île, en vue d'extraire le cuivre. Les contestations contre les projets de Bougainville Copper Limited et les expropriations de terres se doublent de protestations pour plus d'autonomie au sein de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou le rattachement aux îles Salomon. L'association des Munkas, peau noire, est créée en 1968 dans le but de lutter contre la colonisation progressive par les travailleurs des cocoteraies, de plus en plus originaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et l'obtention de meilleures conditions sociales. Le terme de Munkas est utilisé par les hominines autochtones de Bougainville pour se différencier des Redskins, peau rouge, venus de Papouasie. Les divisions entre les différentes parties de l'île reflètent tout autant les divergences d'intérêts, les oppositions historiques, que le degré d'implantation de courants chrétiens parmi les populations. La mine de Panguna est ouverte en 1969. Elle est la plus vaste mine de cuivre à ciel ouvert du monde. Malgré les critiques internationales et les oppositions locales, l'extraction commence en 1972. En 1973, la province australienne obtient un nouveau statut qui doit la mener à l'indépendance. Face à l'échec d'un compromis entre les autorités de la future Papouasie-Nouvelle-Guinée et les instances mises en place à Bougainville, ces dernières proclament l'indépendance le 1er septembre 1975 de la République des Salomon du Nord, 2 semaines avant l'accession à l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un accord est finalement trouvé et Bougainville réintègre, le 9 août 1976, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans un cadre plus décentralisé, sous le nom de « Province des Salomon du Nord ».
1970 et 1980, les tensions sont de plus en plus nombreuses entre les hominines de la région de Panguna et les autorités minières. Celles-ci refusent d'entendre la colère engendrée par les pollutions, la déforestation et les spoliations, ou par le mécontentement des hominines de Bougainville employés dans les mines pour des salaires misérables et dans des conditions de travail déplorables. En 1978, l'Association des propriétaires terriens de Panguna regroupe des mécontents qui réclament des indemnisations auprès de BCL, une meilleure répartition des bénéfices tirés de l'extraction et une diminution de l'emploi d'hominines venus de Papouasie. Sans succès. En moins de 10 ans, l'association se radicalise et en mai 1987, les occupations de locaux et les manifestations contre BCL se multiplient. Les protestataires exigent la moitié des bénéfices réalisés depuis 1969. Blocage de routes et sit-ins ne suffisent pas et la seule réponse est policière.
Ma vie n'est rien. Ce qui compte, ce sont les raisons de ma vie. Je ne suis pas un chien. Albert Camus, L'état de siège, 1948, cité à l'entrée bestiaire dans Analecte de rien.
En novembre 1988, un vol d'explosifs sur un chantier de la mine de Panguna est l'acte fondateur de l'armée révolutionnaire de Bougainville, plus connue sous ses initiales anglaises de BRA. Ce nouveau groupe réalise une série de sabotages contre BCL, attaquant les chantiers et les locaux, détruisant pylônes et transformateurs. Face à la multiplication des actions, la Papouasie-Nouvelle-Guinée instaure un couvre-feu dès janvier 1989. Mais la mine de Panguna est indéfendable et BCL décide de sa fermeture le 15 mai, ainsi que du retour des ouvriers papouasiens. Les accrochages sont parfois meurtriers et les représailles contre la population sont courantes. En mai 1990, devant son échec, la Papouasie-Nouvelle-Guinée décide de retirer ses troupes de Bougainville et d'instaurer un blocus total de l'île. En réaction, l'armée révolutionnaire de Bougainville proclame l'indépendance de l'île en mai sous le nom de République de Mekamui. Mekamui est un des noms locaux de l'île et signifie terre sacrée.
Le blocus maritime vise à affaiblir la guérilla de la BRA et retourner les populations contre elle. L'importation de nourriture est stoppée et l'activité économique est très ralentie. Avec l'aide logistique de l'Australie, la Papouasie dépêche des militaires de sa propre armée, mais tente aussi d'envoyer des groupes de mercenaires. Pour autant, malgré les escarmouches, les guérilleros de la BRA restent insaisissables. Leur armement se compose de vieilles armes abandonnées lors des combats entre Japonais et Australo-États-Uniens 45 ans plus tôt. Ils aspirent à l'autonomie maximum et, pour cela, recyclent les matériaux de chantier, fabriquent leurs propres armes, cultivent des potagers et exploitent toutes les ressources du cocotier. Que cela soit dans les cocoteraies ou en liberté, les cocotiers sont une ressource omniprésente sur l'île, la seule accessible sans effort et sans risque. Le cocotier est utilisé pour ses aspects alimentaires, cosmétiques ou médicinaux, pour son huile et son carburant, pour les produits dérivés de la coque et des fibres du fruit, etc., etc. Consciente de la réalité biologique des hominines, la BRA ne prône pas de régime strictement cocovorien. Elle optimise et fait de la noix de coco un élément central de sa survie, la révolution des noix de coco. Du nom d'un documentaire réalisé par un Britannique en 2001 auprès des combattants de la BRA.
Depuis 1997, l'exaspération papouasienne est à son comble. La persistance de quelques centaines de combattants de la BRA empêche la réouverture de la mine de Panguna, dont l'exploitation représentait, avant fermeture, 45% du total des exportations et plus de 17% du revenu du pays. Un contrat de plus de 30 millions de dollars est signé discrètement avec une société de sécurité privée sud-africaine, Executive Outcom, pour l'envoi d'une troupe de mercenaires pour débusquer et réduire définitivement les guerrieros de l'armée révolutionnaire de Bougainville. Mais le projet est dévoilé et finalement annulé par le gouvernement qui change alors de tactique. La levée du blocus, un appel au cessez-le-feu, la démilitarisation et la création d'une force de paix indépendante sont proposés. Un premier accord est signé en janvier 1998 et entraîne un cessez-le-feu en mai. Une partie de la BRA accepte de déposer les armes à la condition que la possibilité d'une indépendance future soit inscrite dans l'accord final. La situation politique est périlleuse pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Salomon, car toutes deux sont confrontées à des tentatives de sécession de certaines autres de leur région. Dans l'une, la Nouvelle-Irlande et la Nouvelle-Bretagne réclament la création d'une république fédérée mélanésienne autoproclamée. Et aux Salomon, ce sont les îles Shortland qui veulent leur attachement à Bougainville ou l'armée révolutionnaire de Guadalcanal qui cherche l'indépendance de cette île. Entre 1999 et 2003, les Salomon sont secoués par des affrontements entre le gouvernement et plusieurs groupes armés qui réclament plus d'autonomie ou l'indépendance de leur île. En 2017, les îles de Guadalcanal et Malaita adoptent l'alphabet coréen pour noter quelques langues locales. Deux ans plus tard, environ 85% des 1800 armes de la BRA sont collectées. Le conflit a causé la mort de plus de 20 000 personnes depuis 1989, environ 10% de la population de l'île, et quelques milliers de déplacés, essentiellement vers les îles Salomon.
Coco Diva.
De nouvelles institutions sont mises en place à la suite de la signature des accords. À l'issue d'élections en 2005 remportées par Joseph Kabouy, un ancien de la BRA, un gouvernement local est composé, disposant d'une autonomie renforcée, de pouvoirs de police et d'une redistribution partielle des revenus des ressources de la province de Bougainville. Le ralliement à la paix et le désarmement des cellules de la BRA encore actives est au centre de la politique du gouvernement autonome de Bougainville. Quelles que soient leurs différences politiques, la majorité des organisations politiques de Bougainville vise à l'indépendance à court terme de l'île. En décembre 2019, lors du référendum sur cette indépendance prévu par les accords de paix, le « oui » remporte 98% des suffrages exprimés sur les 85% des 200 000 hominines inscrits. Pour autant, Bougainville n'est pas encore un État indépendant et ce processus politique n'est qu'une première étape. Dans les années à venir, Bougainville sera sûrement, si l'on fait abstraction de ses spécificités, une réalité au même titre que la Macédoine, par exemple.
Pour le reste, la Macédoine est un pays comme les autres. Ses frontières sont une chimère, son histoire nationale une mythologie, son pouvoir politique un rapport de domination et son organisation sociale une contrainte. Comme toute identité collective, la Macédoine est une illusion. Extrait de Vie et œuvre de F. Merjanov.
Los Angeles.
Pour des raisons climatiques, le cocotier n'est pas parvenu seul à s'implanter dans la partie sud du continent nord-américain. Les hominines ont alors opéré une double introduction. L'une symbolique par le bullying, l'autre par l'importation et la consommation quotidienne du fruit et ses dérivés. Nul ne peut nier l'évidente ressemblance entre le fruit décortiqué du cocotier et une boule de bullying, ni la forte implantation de ce jeu de quilles parmi la population états-unienne d'hominines, mâles et femelles. Depuis plusieurs siècles, les États-Unis œuvrent à la diffusion sur leur propre territoire de ce jeu familial et une réglementation unifiée et codifiée. Même si le bullying s'est exporté à travers le monde, il reste une occupation phare dans son pays de naissance. Le très beau documentaire The Big Lebowski, réalisé en 1998 par Joel et Ethan Cohen, retrace de manière décalée les plus émouvants moments de l'histoire du bullying dans les États-Unis contemporains. Sur fond de guerre du Vietnam, de coco en résine, d'absence d'espoir et de marijuana, pas en résine, il suit une bande de désœuvrés à Los Angeles dont l'unique but dans l'existence est d'être proclamé roi des boules. L'un d'eux, Jésus, pense pouvoir les surpasser tous et ainsi incarner la réussite, le self-made man. Pour cela, il met en place de longs rituels faits de gestes, de danse et d'incantations et arbore un costume violet de super-héros états-unien, mais il y est éliminé en demi-finale. Ce sont les bons à rien qui la remportent, l'équipe de Jeff Lebowski. Par son échec, et contrairement à son illustre et fictif homonyme, Jésus ne sera pas l'origine de farfelues croyances. La magie hollywoodienne exporte ainsi un nouveau culte cocovorien, post-moderne et en résine, selon les Coco Studies.
Je ne suis qu'une enveloppe de chair et de sang, rien que la représentation de ce que je vous montre. De ma vie, je fais mon œuvre, et je la joue comme au théâtre. Je ne suis pas celui que vous croyez. Je suis un masque, le truchement de moi-même. Dans ce monde, je ne suis rien. Cité à l'entrée Yukuko dans Un Alecte de Rien.
Nice.
Malgré l'acharnement de la protivophilie à débusquer la moindre information sur F. Merjanov, aucune donnée n'est pour l'instant disponible sur l'histoire de l'implantation du bullying dans la ville de Nice. Rien sur une hypothétique pratique.
Tout sur rien. C'est sur Radio Kipik, le mercredi à 12h et le dimanche à 19h.